explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un étudiant en biologie qui, après son master, décide en 2014 de partir faire une thèse au Laos. En chemin, l'idée de la thèse tourne court, il s'arrête en Thaïlande et c'est dans une toute autre aventure qu'il s'embarque. Depuis sa chambre à Chiang Mai, notre étudiant, Léo Grasset, se mue en youtubeur. Il crée sa chaîne Dirty Biology, une chaîne de vulgarisation scientifique où il aborde avec humour, mais de façon fouillée et rigoureuse, des thèmes aussi variés que la sexualité des animaux, les OGM ou encore l'espace. C'est un succès. Aujourd'hui, la chaîne compte plus d'un million d'abonnés. Ceux qui étaient là depuis le début ont vu Dirty Biology évoluer au fil des années. Avec le temps, Léo Grasset s'est éloigné de sa chambre. Il fait toujours de la vulgarisation, mais sur le terrain. De l'Arctique à la Birmanie, en passant par la République centrafricaine, le vidéaste répond aux questions que lui inspirent ses voyages. Léo Grasset était venu nous raconter son expérience de youtubeur vulgarisateur tout terrain en juillet 2019. Et nous vous proposons cet après-midi une nouvelle diffusion de cet entretien. Et en fin d'émission, nous retrouverons avec plaisir le sociologue de l'alimentation Éric Birloez. Comme à son habitude, il nous racontera l'histoire d'un aliment qui a voyagé avant d'arriver dans nos assiettes. Aujourd'hui, il s'intéressera à un fruit dont la saison commence tout juste, la fraise. Voilà pour le programme de cette émission réalisée par Étienne Bertin avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
Là, on va monter dans une mine désaffectée, tenter d'explorer un peu ce qu'il y a.
Daniel Fievé.
Allez, c'est parti.
Sur France Inter.
Voilà, on vient de monter, je sais pas, 200 mètres de dénivelé peut-être. Ici, il y a 22 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites, la couche charbonifère. Toutes les installations, toutes les infrastructures sont des infrastructures minières. C'est juste un passé houillé en fait. On est dans le Roubaix de l'Arctique.
On est dans un décor qui est pratiquement intemporel. En fait, la mine a été fermée dans les années 80 et on pourrait très bien être au fin fond du Kansas ou de l'Arkansas en 1830. Il y a quelque chose d'un peu surréel, quoi.
Souplesse. Wow.
Bonjour Léo Grasset.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait d'une vidéo récente mise en ligne sur votre chaîne Dirty Biology. Nous étions en Arctique. Où exactement ?
C'est dans l'archipel du Svalbard, ouais. Donc à 1000 km du pôle Nord à peu près.
Et qu'est-ce que vous y étiez allé y faire ?
En fait, tout a commencé autour d'une bière. J'ai un ami qui a une chaîne de géopolitique qui s'appelle Mister Geopolitics. Et lui, en fait, son frère était étudiant à l'université de Svalbard, à l'UNIS. Et il nous a dit, j'y vais, et si vous voulez venir, on peut faire des vidéos ensemble, et ça sera super cool. Et donc on s'est vraiment dit, oui, on va faire ça, et on l'a fait. Et on s'est retrouvés donc avec Charles Villa, qui travaille pour Brut, le média, et avec Gilda, qui fait Mister Geopolitics, et Théo, qui fait une autre chaîne qui s'appelle Balade Mentale. Donc on était à quatre vidéastes, comme ça. Et on s'est beaucoup amusés. Alors on a beaucoup réfléchi ensemble sur quel sujet on pourrait discuter et faire des vidéos. Et voilà, on s'est retrouvés dans des situations comme ça, dans des grottes de glace ou dans des anciennes mines désaffectées du Svalbard, quoi. Donc c'était vraiment exceptionnel comme aventure.
Au départ, il y a un début d'envie d'exploration, d'aventure. Mais souvent, une fois que les vidéos sont abouties, ne nous y trompons pas, c'est très anglais. Il y a un sujet, il y a un fil conducteur. En l'occurrence, en Arctique, évidemment, le changement climatique était au centre de vos préoccupations et de vos questionnements.
Oui, oui. En fait, c'est-à-dire, on est tous, toutes les personnes qui étaient dans ce voyage-là se définissent comme des vulgarisateurs. Donc l'idée, c'est de simplifier un sujet et le rendre appétissant, sexy au plus grand nombre. Donc on est tous à peu près confiants qu'on peut raconter des sujets chouettes. L'idée, c'est quand on va dans un voyage comme ça, on essaye de trouver vraiment le truc le plus intéressant à raconter. Donc oui, moi je me suis focalisé sur le réchauffement climatique et ses conséquences un peu surprenantes. Et c'est vrai que quand on arrive sur place, je connaissais pas la moitié de ce que j'ai raconté avant d'arriver aux Svalbard. En fait, il y a tellement de choses qu'on découvre une fois qu'on met les pieds sur l'île, que bah, du coup, la vidéo s'enrichit et on fait des chouettes trucs.
Ouais. Et alors, vous faites ça un peu partout et c'est vrai que c'est assez étonnant la façon dont vous vous servez des pays que vous traversez pour aborder des questions pas forcément attendues. Par exemple, me revient en mémoire Marrakech, vous vous promenez dans le souk de Marrakech et là, en fait, vous faites toute une explication de comment s'établit notre sens de l'orientation. Mmh. Ça devient passionnant, mais ça aurait pu être fait... partout ailleurs.
Oui, j'aurais, je pense, pu faire ça dans un village français ou carrément, c'est, en fait, je me suis retrouvé là-bas un peu par hasard, voilà, en vacances. Et il se trouve que quand je voyage, je m'ennuie souvent. Enfin, il faut, enfin, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je m'occupe. Et j'ai vraiment besoin de lire des choses sur les endroits où je vais. Il faut que je m'instruise. Et donc, je me pose plein de questions. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en général, je pars pas tout seul. Je pars avec des gens qui aussi se posent des questions. Donc là, sur place, bah, c'était à Fès et c'était ouais, dans la vieille ville qui est un dédale. Et donc, j'ai jamais réussi à trouver mon chemin du premier coup. Donc, je me suis demandé pourquoi je suis aussi mauvais, alors que tout le monde, enfin tous les locaux, s'en sortent très bien. Donc voilà, donc j'ai un peu découvert au passage le concept de carte mentale, etc. Donc c'était l'occasion de faire une vidéo dessus, quoi.
Ouais, c'était à Fès, pas à Marrakech, ma mémoire.
Mais ça marcherait à Marrakech.
Mais ça marcherait. Oui, le souk de Marrakech aussi est assez labyrinthique. Et puis alors dans une île perdue au Québec, là c'est l'occasion pour vous de vous poser une question absolument passionnante sur l'évolution humaine. Est-ce que les êtres humains aujourd'hui évoluent encore? Pourquoi dans ce lieu-là, dans cette petite île perdue au Québec, c'est cette question-là que vous avez eu envie d'aborder?
Alors ça c'est je pense un des projets les plus différents du reste parce que pour une fois ce projet-là, j'y suis allé en ayant choisi à l'avance l'endroit. En fait, il y avait eu une publication scientifique qui avait été faite sur la petite population qui était sur cette île, qui est l'île aux Coudres. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais bien aller sur place et puis rencontrer des gens qui sont les descendants des gens qui ont été étudiés dans cette étude. Et puis, on pourrait faire une vidéo dessus. Bon, il se trouve qu'en plus, à l'époque, je passais la moitié de ma vie au Québec parce que ma copine de l'époque y habitait. Donc, c'est tout coïncidait, quoi. D'habitude, quand je fais une vidéo, c'est pas trop comme ça que ça se passe, c'est plus opportuniste. C'est-à-dire, je me retrouve dans un endroit et je vais chercher très fort des sujets dont je pourrais discuter, quoi.
D'accord. Alors, évidemment, la vidéo est très fouillée encore, hein, ça dure 15-20 minutes, mais qu'est-ce que vous avez compris de « est-ce que l'homme évolue encore aujourd'hui ?» si on rentre dans le sujet, parce que c'est vrai que c'est une question passionnante.
Alors oui, l'homme évolue encore, ça c'est vraiment le truc qu'il faut absolument retenir. Et il évolue dans des directions qui sont assez difficiles à prédire. Typiquement, les données sur lesquelles on est le plus sûr, c'est que ce qui évolue vite en ce moment... donc au sens vraiment génétique, sous sélection naturelle, c'est l'âge à la première reproduction. C'est l'âge auquel on est prêt à faire le premier bébé et auquel on fait ce premier bébé. Et ce qui peut paraître étonnant au public qui n'a pas forcément fait des études de biologie évolutive, et on les excuse, c'est que en fait, ce trait-là est en partie génétique, pas uniquement culturel.
Oui, parce qu'on pourrait penser que c'est culturel, hein, l'âge du premier bébé. En fait,
on peut estimer, la biologie fournit plein d'outils, et en fait, dans ces outils, on peut estimer la part génétique de la part culturelle de n'importe quel trait qu'on peut mesurer, en se basant notamment sur les pédigrés, donc en fait les généalogies, et puis on peut regarder, par exemple, si j'ai une cousine au troisième degré, donc je connais mon apparentement génétique avec elle, je peux estimer, si on a le même trait, quel est le pourcentage de génétique dans tout ça, et puis on fait ça pour toutes les personnes à qui on est apparenté. Ouais.
Alors la biologie, hein, ça vous a pas passionné depuis tout petit. En revanche, le voyage, c'est quelque chose qui est inhérent à votre vie. Vos parents, en fait, très tôt, vous avez grandi dans ce mythe avec des parents qui vous disaient un jour, on fera le tour du monde à la voile.
Donc, complètement. Ouais, je me souviens que quand on était, donc on a grandi à Suril-Comtal dans la Loire, et on était déjà un peu une famille particulière parce qu'on avait un bateau dans le jardin. Bon, la Loire c'est dans le Massif Central, donc on se demande ce qu'il fait là. Et en fait, très tôt, nos parents nous ont dit on va partir, voilà. Donc on avait aussi un très grand camping-car que mes parents avaient bricolé et on partait, un petit peu partout en France. Souvent d'ailleurs pour aller retaper le dit bateau. Donc on avait eu un autre bateau qui était à Ouistreham au nord et on faisait souvent des voyages pour aller bricoler le bateau. Donc c'est en gros toute mon enfance, enfin notre enfance parce qu'on est une famille nombreuse, c'est moitié du voyage et moitié retaper des trucs pour partir voyager ensuite.
D'ailleurs, votre frère Colas Grasset, qui lui aussi a une chaîne YouTube, il fait de l'animation lui sur sa chaîne YouTube, et au détour d'une de ses vidéos, il raconte effectivement comment vous répariez ce bateau.
On était en train de préparer notre bateau pour traverser l'Atlantique avec. Donc on vivait dans la partie chantier naval. Chantier naval, où on se faisait réveiller tous les matins par des bruits de meuleuses, de ponceuses et de coups de marteau. Et de mon père qui gueule « Venez travailler !»
Quoi ?
Bon, j'en rajoute. Des fois, c'était ma mère qui nous réveillait avec douceur. Les garçons, venez travailler ! Et vu qu'on était petits, on se retrouvait toujours à faire des trucs ingrats. Tiens, vu que t'as des petites mains, essaye de visser cet écrou. Allez garçons, quand la tête passe, tout le corps passe.
Ok, continue de pomper, je tente de démarrer.
Il y aura peut-être des fuites d'huile par contre. Un jour, avec Léo, on était dans la pointe avant, là où on dormait. Et vu que c'était notre cabine, c'était à nous de la préparer. On en était à coller de la moquette sur les murs. Imaginez la scène. Deux enfants, une cabine d'environ 2 mètres cubes, et en plein milieu, un énorme pot de colle néoprène ouvert. Et nous, étant deux enfants dans une cabine de 2 mètres cubes avec un énorme pot de colle néoprène, bah, on avait oublié d'ouvrir le hublot. Et on avait fermé la porte, histoire d'être tranquille. Tout ce que je me rappelle, c'est que ce qu'on se racontait était super marrant. Au bout d'un moment, notre mère est venue pour savoir pourquoi on rigolait comme des singes. On était déchirés à cause des vapeurs de colle. C'était la première fois que j'étais défoncé, et c'était par accident et avec mon frère.
Ça s'est vraiment passé comme ça. Léo Grasset, les préparatifs avant le voyage, vous aviez quoi, 14 ans à peu près à ce moment-là?
Plus jeune que ça, là on avait 10 ans je pense à peu près. Ouais.
Ah bah, bravo, bravo les parents. Et alors du coup, vous l'avez fait, alors c'est pas le tour à la voile que vous avez fait, mais ce bateau a été prêt et vous avez traversé pendant 20 jours l'Atlantique à la voile. Vous gardez quel souvenir de cette traversée?
Incroyable, incroyable. L'Atlantique en particulier, on était vraiment au milieu de tout et on est tout seul en fait. Et il n'y a rien à se mettre sous l'œil en fait, parce qu'il y a que de l'horizon. Non, c'était exceptionnel. Enfin, les 8 mois de ce voyage-là ont été incroyables. On a eu un ouragan. Enfin, vraiment toutes les aventures qu'on lit dans les livres de voyage, en particulier en bateau, on les a eues quoi. C'était assez fou. C'est vrai qu'on a fini par s'arrêter aux Caraïbes parce que pour des problèmes de santé, donc on s'est calé là parce que c'était pratique. Et en fait, on a fini par vraiment aimer l'île et on est resté en Guadeloupe pendant 10 ans.
Voilà, c'est ça. C'était pas pour un tour du monde, mais la première escale, la Guadeloupe, finalement, vous y êtes resté 10 ans. C'est en Guadeloupe que vous avez pris ce goût d'observer le monde, de vous intéresser à la biologie.
Ouais, complètement, ouais. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des gens incroyables qui m'ont inspiré. Je pense que c'est, on n'en parlera jamais assez, mais les inspirations, c'est fondamental. J'ai eu notamment un professeur de biologie végétale qui m'a emmené en forêt pendant un stage et qui était vraiment une mine d'or d'informations sur tout le monde de la forêt tropicale. Puis en plus, c'est des forêts magnifiques parce que voilà, c'est des arbres de 30 mètres qui sont couverts d'épiphytes dans tous les sens. Il y a de la mousse, enfin bref. Et il arrivait par exemple, il coupait un bout d'écorce, il le goûtait, il disait « Ah bah c'est cette espèce enfin, ». Voilà. Donc quand on est face à une personne comme ça, on se dit « Mais c'est hyper intéressant, il y a trop de trucs à apprendre ». Et puis, donc ça c'est le côté terrestre, mais le côté marin, bon bah il y avait les coraux, il y avait les pontes de tortues marines qu'on allait regarder la nuit. Voilà. Enfin, on est en face d'un monde qui est hyper intéressant, donc c'est difficile de vraiment faire la fine bouche et de se dire « Non, ça m'intéresse pas ».
Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez contracté les deux virus, hein, finalement. Ouais. Le voyage d'un côté et puis le goût des sciences, de la biologie. Vous faites des études de biologie et après votre master, vous allez alors d'abord passer par le Canada, mais ensuite le Zimbabwe. Et là aussi, ça a l'air d'être une expérience incroyable pendant 6 mois. Là, c'est déjà en tant que jeune chercheur hein, que vous vous rendez au Zimbabwe. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
En fait, là aussi, j'ai encore eu de la chance. Je suis tombé sur un chercheur qui était très compréhensif. À la fin de mon master, je voulais pas enchaîner direct avec une thèse parce que j'avais pas trouvé de sujet qui me passionnait. Et il m'a dit, bon, pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est une sorte de stage de 1 an. Ça a pas vraiment une valeur diplômante. Donc, tu vas partir 6 mois au Québec faire de l'analyse de données. Et puis, les autres 6 mois, tu partiras au Zimbabwe sur le terrain pour récolter des données pour moi. C'est ce que j'ai fait et c'était absolument incroyable parce que...
Donc là c'est quoi? On est dans un parc naturel au milieu de la faune sauvage, vous êtes avec votre carnet ou peut-être votre ordinateur et vous récoltez des données, c'est vrai que c'est un rêve d'étudiant en biologie ça.
Ah oui, non, c'était incroyable, enfin pour les gens qui ont envie de faire du terrain, c'était formidable. En gros, tous les matins, tu te réveilles, tu prends ton café, tu l'emmènes dans un thermos avec ton 4x4 tout seul, tu... à accès au parc parce que tu as le statut de chercheur, donc c'est très simple de rentrer, sortir, tu peux même sortir des chemins, faut pas en abuser, mais voilà, si tu as besoin de te rapprocher d'un groupe de zèbres, moi c'est les zèbres que j'étudiais, et tu te poses et tu fais de l'observation, et là il y a tellement de trucs qui se passent, en particulier autour des points d'eau, il y a l'arrivée des éléphants, ils arrivent à 30 et ils viennent boire, puis il y a les girafes, puis les zèbres, puis les gnous, et puis on voit des lions, on voit des guépards, enfin vraiment c'est comme dans les livres pour enfants, sauf que c'est ça, c'est tous les jours quoi, c'est incroyable.
Alors ça paraît merveilleux, est-ce qu'il y a aussi parfois quelques frayeurs, parce que voilà, c'est la faune sauvage avec des lions, vous l'avez dit, est-ce que parfois il y a eu des frayeurs?
Ah oui, je pense que toutes les personnes qui ont vécu plus d'un mois ou deux sur ce genre de terrain-là ont des histoires à raconter. Moi, c'est pas les histoires les plus folles. Hein. J'ai rencontré des vieux de la brousse qui ont vécu des choses de ouf. Moi, j'ai eu deux trois événements où je me suis retrouvé en panne en voiture, parce que les voitures, c'est un gros sujet là-bas. Elles sont toujours malades. Et je me suis retrouvé en panne en voiture en attendant que quelqu'un vienne me pousser. Et il y a un éléphant qui s'est approché. Il était très très curieux, mais il était aussi très très gros. Et il était un petit peu, enfin, je sais pas s'il était en colère ou pas. Je parle pas vraiment bien l'éléphant, mais il s'est approché beaucoup trop près pour moi, pour ma zone de confort, et ça a duré très longtemps. Donc, et une autre anecdote qui est un peu plus impressionnante, c'est on s'est retrouvé de nuit dans un parc à camper, en bivouaqué, voilà, en plein air. Et là, il y a eu un. On est arrivé, en fait, c'était à côté d'un point d'eau. Il y avait une énorme harde de buffles. Donc, qui dit buffle dit prédateur. Et donc, pendant la nuit, il y a eu une chasse. Voilà, les lions se sont mis à chasser les buffles.
Et vous êtes au milieu de tout ça?
Ouais, en fait, on est dans un parc, entre guillemets, enfin dans un camp. Mais faut savoir que c'est un camp qui est au fond du parc national de Wangé. Et le parc national n'a pas nécessairement, ou en tout cas à l'époque, n'avait pas nécessairement les moyens de vraiment protéger les campements. Donc là, il y avait un fil de fer qui nous séparait de lions qui font 200 kilos, et il y avait des éléphants aussi qui se faisaient chasser. Enfin, c'était vraiment hyper impressionnant. Et tout ça, c'est sans la vue, parce qu'on est dans le noir, donc on ne fait que entendre les rugissements des lions, les cris des éléphants. Et là, j'ai vraiment eu peur comme j'ai jamais eu peur de ma vie, je pense.
J'imagine que vous n'avez pas dormi de la nuit.
Non, très peu. Très peu, personne.
Vous racontez vos découvertes au Zimbabwe dans un livre intitulé Le coup de la girafe aux éditions du Seuil. J'imagine que le livre est toujours en vente. Ça veut dire que l'envie de vulgariser et d'expliquer n'est jamais très loin avec vous. Rien que cette expérience, alors que vous êtes tout jeune chercheur à ce moment-là, vous devez avoir quoi, 24, 25 ans?
Ouais, c'est cela.
Et vous en faites un livre assez rapidement.
Ouais, à la base, en fait, je voulais. Donc, on avait un blog avec des amis. Et puis, comme je suis arrivé dans ce terrain-là, au Zimbabwe, je me suis dit, il y a trop de choses intéressantes à raconter. Et encore une fois, ce que je racontais tout à l'heure, c'est que quand je vais quelque part, eh ben, c'est pas que j'ai tendance à m'ennuyer, mais c'est qu'il y a une sorte de réflexe d'occuper mon cerveau avec essayer de m'instruire le plus possible, et voilà. Donc, par exemple, il y avait plein de termitières partout au Zimbabwe. On voit ces espèces d'énormes monticules de terre, très durs, dans lesquels les gens d'ailleurs forent à la pioche pour mettre l'intérieur des termitières dans leur champ, parce que c'est très fertile. Et du coup, je me suis intéressé à qu'est-ce qui se passe dans ces termitières. Donc, ça fait un chapitre du livre. Et en fait, effectivement, il se passe plein de choses dans les termitières. C'est génial. Donc, voilà. Donc, il y a toujours eu un peu, ouais, cette logique d'essayer de s'instruire, quoi.
Après, vous allez partir pour une thèse au Laos, mais ça va tourner court. C'est finalement en Thaïlande que vous allez atterrir et que l'aventure YouTube va commencer pour vous. Léo Grasset, créateur de la chaîne Dirty Biology, nous emmène dans ses aventures de vidéaste. Nous allons passer avec lui par la Birmanie, Madagascar ou encore la République centrafricaine. Mais on reste encore un tout petit peu au Zimbabwe. C'est Bob Marley qui nous y invite.
Zimbabwe, city talking. pizza. So soon we'll find out who is the real revolutionary. And I don't want my people to be tricked by mercenaries. Brother, you're right, you're right.
C'était Zimbabwe de Bob Marley and the Wailers sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Bonjour. Nialai, qu'est-ce que c'est ?
Des gâteaux au sucre de palme.
Mmh, alors le Mac Mac. Le problème avec les desserts thaï, c'est que quand on a mis une lettre dedans, on ne peut plus s'arrêter. Ça va des claps ?
Ah, oh non, je voudrais en goûter un.
Attention, c'est chaud.
Si, 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 si. C'est round run. Ça, c'est des sortes de petits blinis. Oh, c'est chaud. Mmh. Des jeux. Alors ça c'est incroyable. C'est des petits gâteaux apéritifs thaï. Qu'est-ce que c'est ?
Des sauterelles, des petites sauterelles, des larves.
Fred Chéneau des nouveaux explorateurs de Canal+, Léo Grasset, vidéaste, créateur de la chaîne YouTube Dirty Biology. Cette ambiance de marché thaïlandaise doit vous rappeler de bons souvenirs. Vous avez passé 4 ans de votre vie en Thaïlande, plus précisément dans le nord du pays, du côté de Chiang Mai. Et ces marchés et leurs saveurs sont un bon souvenir pour vous, j'imagine. Vous êtes régalé en Thaïlande.
Oui, la nourriture me manque beaucoup, ouais.
Ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Thaïlande ? Je disais, juste avant de lancer la musique, que vous partiez pour le Laos, pour une thèse, et puis finalement, vous êtes passé voir votre frère en Thaïlande, et pendant 4 ans, vous y êtes resté, vous êtes installé ?
Alors, ouais, en fait, c'est un peu chaotique, mais en gros, je me suis retrouvé au retour du Zimbabwe sans trop savoir quoi faire. Je cherchais un boulot, tout ça, et puis... Donc il y a eu ce plan-là d'avoir une thèse au Laos, donc je suis parti de Guadeloupe, pour qui était chez mes parents, pour aller en Asie du Sud-Est. Et il se trouve qu'à ce moment-là, exactement, mon frère venait de s'installer, donc j'ai squatté chez eux. Et donc je me suis retrouvé dans une ambiance de coloc qui était absolument, vraiment incroyable. C'était que des gens créatifs qui étaient en train d'essayer de construire leur propre projet. Donc il y avait un compositeur, des animateurs, des illustrateurs, quelqu'un qui faisait de la 3D, voilà. Et on s'est tous installés dans une grosse coloc, une très grande maison, un manoir même, on pourrait dire. Et on a vécu là-dedans et on a tous fait nos projets, lancé nos projets. Et c'était vraiment, vraiment génial. Quoi.
Pas en autarcie pour autant, vous vous êtes quand même intéressé à la culture locale. Oui, si c'était sûr. En Thaïlande, c'était pas pour rien.
Oui, non, bien sûr, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le temps, en fait. On avait le temps vraiment de vivre la vie locale. Nous, on était un peu... à l'extrémité de la ville, enfin en périphérie de la ville plutôt, donc on était vraiment dans un endroit où il n'y avait pas trop de touristes, et du coup on avait vraiment une petite vie de village entourée de gens avec qui on avait nos habitudes, enfin on allait toujours dans les mêmes restos, on rencontrait les mêmes personnes avec qui on finissait par se lier, ouais. Même si honnêtement mon niveau en thaï n'est pas incroyable.
Ouais. Vous avez quand même appris à parler un peu, à baragouiner
un petit peu, voilà, ouais. C'est pour ça me faisait rire dans l'extrait l'accent français de la personne qui parlait, mais en vrai moi mon accent n'est pas excellent parce que, enfin mon thaï n'est pas bon parce que j'ai pas arrêté de partir et revenir pour des projets de vidéo, donc c'est sur une période de 4 ans que j'ai vécu là-bas, mais c'est vraiment en pointillé. Quoi.
Ouais. Mais quand on vit comme ça en pointillé dans un pays, qu'on y revient, on a toujours l'impression d'être en voyage quand on y est, ou ça devient autre chose ?
Alors ouais, c'est vraiment étrange, c'est très particulier. Moi, la Thaïlande, je m'y suis vraiment senti comme chez moi très vite. Et du coup, quand j'y retourne, je reprends tout de suite mes réflexes. Donc c'est assez chouette, il y a vraiment un truc comme à la maison. Mais c'est vrai que ça m'a pas fait la même chose partout. J'ai beaucoup, beaucoup bougé là, les 4 dernières années. Et il y a un moment où ça devient même un petit peu compliqué. On est tout le temps en déplacement. Donc en fait, on n'est jamais vraiment nulle part. On est toujours
de passage, quoi. Ouais.
Et c'est en Thaïlande donc que vous avez décidé de créer cette chaîne Dirty Biology. Pourquoi ce nom Dirty Biology?
Alors à la base, en fait, les épisodes étaient en anglais. C'est mon frère Cola qui les présentait, mais c'était pas génial.
C'est sympa pour lui.
Ouais. Alors bah, d'une part, je pense son anglais, c'est pas qu'il était mauvais, mais c'est qu'il a un accent jamaïcain quand il parle, donc c'était pas incroyable. Et puis même, on s'est dit que ce serait plus sympa que la personne qui écrive soit aussi celle qui présente. Donc j'ai tout repris et en français, mais j'ai gardé le nom de la chaîne en anglais.
Mais ça veut quand même dire biologie crade, oui, biologie voilà. Sale. Alors pourquoi?
Ben, au départ, tous les sujets dont je voulais parler étaient vraiment montrer que la biologie, c'est pas la nature toute mignonne avec les animaux à fourrure qui font des sourires. C'est vraiment, c'est de la guerre, c'est des parasites, c'est de la compétition même au niveau du sperme. Enfin, vraiment dire, voilà, ça, c'est la biologie comme elle est vraiment. C'est dégueu, ça colle au doigt, quoi. Mmh.
D'accord. Alors, effectivement, au début, c'était depuis votre chambre. Hein, le voyage était présent dans votre vie, mais pas tellement dans vos vidéos, finalement. Et puis, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, vraiment dans la plupart de vos vidéos, vous nous emmenez loin, de plus en plus loin. Parfois, vous vous laissez surprendre dans le pays dans lequel vous allez par un sujet que vous n'aviez pas prévu. Exemple avec la Birmanie.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans le plus grand livre du monde. Je suis actuellement dans la pagode de Kutodao, à Mandalay, en Birmanie. Et en fait, si vous imaginez que je vais vous amener vers un gros objet avec plein de feuilles, vous vous trompez un peu, parce que je suis actuellement dans le plus grand livre du monde. Ce livre, le plus grand du monde, est en fait constitué de 730 tablettes, chacune logée dans un stupa, dans une sorte de petite maison comme celle-ci. Et chaque tablette contient deux pages, puisqu'il y a deux faces à chaque tablette, un recto et un verso. Donc on se retrouve avec 1460 pages pour un livre de texte bouddhiste qui est étalé sur toute la superficie de la pagode. Ce projet a été initié par l'ancien roi de Birmanie à la fin du 19e siècle et l'idée était de conserver le Tripitaka, donc un texte bouddhiste, sur un support très durable pour que les textes bouddhistes puissent être accessibles aux croyants sur une très très longue durée. Le site royal de Kutodao impose le respect. Cette œuvre monumentale, qui pèse plus de 430 tonnes, représente l'espoir d'un monarque de freiner le processus spontané de la dégradation causée par le temps, bref, de laisser une trace.
Alors là, Léo Grasset, évidemment, nous, on n'a pas la vidéo, hein. On est à la radio, ça mérite un peu de décrire, parce que cet endroit dans lequel vous vous promenez et vous nous racontez ce livre gigantesque, faut nous dire à quoi il ressemble.
Alors en fait, faut imaginer qu'à ce moment-là, dans la vidéo, il y a un plan au drone, parce qu'on ne peut pas faire un plan avec sa caméra, c'est pas assez grand, donc il a fallu que je m'éloigne au drone d'environ 100 mètres pour qu'on ait toute la surface de la pagode, donc c'est un très grand édifice. Qui fait, je dirais, 150 mètres de côté, voilà, donc on a un très grand, voilà, une grande surface, et à l'intérieur de cette grande surface, il y a plein de petites pagodes, donc des petites maisons, voilà, blanches, qui contiennent chacune une tablette. Et alors, ce qui est ouf, donc là, on a cette pagode-là, qui est très très grande, un temple, avec un temple au milieu, et son dôme doré, très joli, et en fait, il y a le double qui est à côté, pareil, une très très grande superficie, et alors qui lui contient pas le texte, là, le Tripitaka, mais il contient une explication de texte quelque part. Donc on a vraiment ces deux temples gigantesques comme ça qui sont au pied d'une colline dans Mandalay, en Birmanie. Et ça, c'est juste un texte qui pèserait quelques kilo-octets sur un ordinateur. Voilà, ah ouais. Donc on se dit, waouh, c'est fou. Ouais.
Là, on prend le projet. Ouais, c'est ça. On prend la mesure du texte parce qu'on peut se promener dedans, de page en page. Vous, qu'est-ce qui vous avait attiré au départ? Pourquoi vous alliez en Birmanie?
Alors, à la base, en Birmanie, c'était au moment où il y avait la crise des Rohingyas, donc dans l'état de Rakhine, l'Arakan.
Donc, cette minorité musulmane qui voilà. Subissait...
un génocide, ce qu'on a appelé un génocide plus tard. Ils se sont fait sortir du pays. Je mets des guillemets en l'air, mais vous ne les voyez pas. Mais en gros, voilà, ils se sont fait pousser jusqu'au Bangladesh, où ils ont fini dans des camps de réfugiés. Et ceux qui n'ont pas réussi à fuir les militaires sont morts.
Voilà. Donc, c'est leur sort qui vous a amené à vous rendre en Birmanie.
Moi, je m'intéressais beaucoup à ça et je me suis demandé comment est-ce que les gens le vivent de l'intérieur et pas comment c'est justement les pauvres Rohingyas le vivent, mais plus comment les gens de l'autre côté de l'arme, en fait. Comment est-ce que le peuple birman voit ça? Voilà, est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il est révolté ou est-ce qu'il est à fond derrière? Voilà. Et derrière tout ça, il y avait une grosse réflexion autour de comment est-ce que nous-mêmes, en Europe, on a aussi nos ancêtres ont commis des choses atroces avec d'autres peuples.
Et je me demandais, mais comment est-ce que c'est aussi facile de glisser comme ça dans de la barbarie la plus atroce. Donc voilà, à la base, j'étais vraiment parti pour ça, puis je voulais rencontrer des Birmans, je voulais les faire parler un petit peu sur le sujet. Et puis en arrivant sur place, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très compliqué de faire parler les gens là-dessus, surtout en étant blanc, étranger, qui arrive pour les vacances. Je pense que ça prend plus d'expertise journalistique, plus de connaissances locales, etc. Donc c'était un projet qui n'était pas à ma portée. Et puis en me baladant dans le pays, je suis tombé sur ce livre et il y a eu plein de questions qui sont arrivées.
Ouais. Alors vous en avez tiré une vidéo superbe, j'invite les auditeurs à aller la regarder. Les images sont superbes. Vous partez d'une légende toute simple. Je ne sais pas si vous pouvez nous la raconter en quelques secondes, parce que le temps passe vite, mais on peut peut-être prendre le temps quand même de la raconter, cette légende.
Alors, donc, la légende, c'est qu'il y a un roi qui cherchait une sagesse. Il a demandé à tous ses sages de trouver une phrase qui serait la plus sage au monde, en gros. Et ces sages sont revenus avec une phrase qui est très simple. C'est « Cela aussi passera ». Et l'idée, c'est que, effectivement, toutes les tristesses que tu vis aujourd'hui vont passer. Même les joies aussi vont passer. Tout passera. Et j'ai été très percuté par ce conte que je raconte très très mal. Mais en gros, l'idée c'est de dire, tout flotte et on n'est qu'un blip insignifiant à l'échelle du temps.
Dans tous les moments, dans les hauts ou dans les bas.
Exactement. Tout finit par.
Cette phrase permet de relativiser. Et alors, vous partez de ce constat assez simple, mais ça vous permet de partir là encore dans des explications scientifiques sur le fait que, quoi que l'on considère, de toute façon, à toutes les échelles de temps, tout finit par passer, les planètes, les étoiles, tout est à une durée finie. C'est à la fois poétique, c'est à la fois scientifique, et c'est vrai que c'est assez ovni dans la vulgarisation, parce que ça ne se contente pas de jouer avec la connaissance.
C'est ce que je préfère faire en fait, mais c'est vrai que c'est aussi ce qui est le plus dur à faire. C'est un petit peu inspiré de... je viens d'une grande lignée de vulgarisateurs qui étaient tous bien plus forts que moi, comme Carl Sagan par exemple, qui a vraiment réussi à combiner poésie et puis science, quoi, puis physique, astronomie. J'essaye de faire ça depuis quelques années maintenant. Ouais.
Cet entretien est une rediffusion d'un temps d'un bivouac diffusé pour la première fois en juillet 2019, bien avant donc les affrontements sanglants en Birmanie qui ont marqué l'actualité ces dernières semaines. Suite de notre bivouac avec Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, dans un instant, le vidéaste baroudeur va nous raconter ce qu'il est allé faire à Madagascar et en Centrafrique. Nous allons voir qu'avec le temps, sa chaîne a pris un tour plus engagé.
Corps à 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 corps
c'était Balaké Sissoko et Camille qui chantaient Cora dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
On est à côté du dernier petit village qui va nous permettre de rentrer dans le massif. Voilà, j'ai la chair de poule là. Donc, je suis content. Et puis, il faut que ça marche parce que les scientifiques qui sont là, ils sont pas venus pour rien, alors ça met un peu la pression aussi. Et puis pour le macaï surtout, pour ces petits animaux qui m'ont fait pleurer la dernière fois, pour ces plantes qui disparaissent, pour ce petit Éden là qu'il faut protéger. C'est surtout pour ça qu'il faut que ça marche tout ce projet.
La voix de l'explorateur Evrard Vandenboom s'apprêtant à pénétrer dans le Macaï, une région très isolée de Madagascar. Léo Grasset, vous avez accompagné Evrard Vandenboom lors d'une de ses expéditions dans le Macaï. D'abord, il faut peut-être décrire cet endroit qui est un peu à part, qui est un peu un monde perdu, isolé.
Non, c'est complètement unique. Faut imaginer une sorte de très très gros cerveau géologique. Des espèces de petits couloirs comme ça dans lesquels on peut s'engager, des petits canyons. C'est un paradis pour le canyoning. Hein. Et en gros, entre les vallées qui sont humides, parce qu'au fond des vallées, il coule de l'eau très très pure sur un lit de sable. Et donc, ces vallées qui sont humides, elles sont complètement différentes écologiquement des plateaux qui sont, eux, herbeux et vraiment très secs. Et on est voilà, dans un paysage vraiment que moi j'avais jamais vu avant. Je pense que ça se rapproche peut-être du parc national de Zion qui est aux États-Unis, mais encore, c'est vraiment incomparable. Quoi.
C'est un endroit unique avec aussi des espèces végétales et animales uniques qu'on ne trouve qu'ici. Et quel était votre rôle, vous, quand vous avez accompagné cette mission? Qu'est-ce que vous faisiez là, en fait?
Bien, j'ai vraiment eu de la chance parce que, en gros, à la base, il y a un des étudiants qui travaille avec Evrard qui connaissait mon travail et qui voulait que je les accompagne et que du coup je puisse à la fois leur faire de la publicité et en même temps traiter tout le sujet du Macaï avec mon angle. Voilà. Mais ils ne savaient pas quel pourrait être cet angle et moi j'avoue que je ne savais pas non plus avant d'y aller.
Donc une fois de plus, c'est sur place que vous avez décidé ce dont vous parleriez, ce que l'endroit vous inspirerait. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré comme question, comme réflexion même?
Et ben, donc à la base, j'ai plein d'idées comme ça en arrivant sur place. Puis j'ai un petit peu tout jeté dès la première semaine parce que je me suis rendu compte que vraiment la grosse thématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire de la conservation des écosystèmes en prenant en compte quand même les humains qui vivent autour et en ne les éjectant pas complètement de l'équation. Je me suis rendu compte en faisant des recherches que la conservation des écosystèmes, c'est souvent faite avec de l'exclusion. Donc on crée des parcs dans lesquels la vie humaine ne peut plus exister. Et dans le Macaï, c'est pas complètement possible. Enfin, il faut que les gens puissent encore utiliser les ressources. Et donc, il y a vraiment une histoire de coopération. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Et c'est ce dont parle la vidéo que j'ai faite là-bas.
Voilà, alors finalement, une réflexion assez éthique, plus que sur la biodiversité, même si évidemment, ça touche ces questions-là. Et on s'en rend compte, vos réflexions évoluent. Vous n'êtes plus uniquement dans la pédagogie, dans la vulgarisation. On s'en rend compte avec une vidéo encore plus récente en Centrafrique. Vous y êtes allé à quelle occasion en Centrafrique? Alors, il faut rappeler que c'est un pays qui est en plein chaos, avec des conflits. Vous le dites, même les habitants sur place savent même plus exactement pourquoi on se bat et pourquoi il y a des gens qui tirent. Vous êtes rendu là-bas, pourquoi?
J'ai rencontré un des grands reporters français qui travaille dans tout un tas de terrains très compliqués comme ça. Et lui, il travaille pour Brut. Et il a lancé un projet où il invite des vidéastes de YouTube avec lui sur des terrains compliqués, donc au Tchad, en Syrie, et donc là, en Centrafrique, avec moi. Et on est arrivé effectivement dans cet endroit-là avec Médecins Sans Frontières pour, discuter de quelque chose, mais on ne savait pas exactement quoi. Très vite, en discutant avec les médecins, je me suis rendu compte que le gros sujet, il était bactériologique. Que sur place, ils ont un usage déraisonné et absolument pas suivi, en fait, parce qu'il n'y a pas de structure de santé qui gère tout ça, des antibiotiques. Donc, tout le monde est à fond antibio et donc ils sont en train d'entraîner tranquillement des bactéries, enfin de les sélectionner plus précisément. Pour qu'elles deviennent complètement résistantes et donc on s'achemine tranquillement vers une situation dont il sera difficile de sortir, sans dégâts en tout cas. Voilà.
Et alors pour cette enquête, vous avez donc suivi Médecins Sans Frontières et vous avez assisté à des scènes difficiles.
On va rentrer dans le bloc opératoire où il y a une dame qui s'est fait tirer dans la jambe.
La balle a traversé l'os, les vaisseaux sanguins et les nerfs. Donc la plaie est ouverte et la fracture aussi. On va enlever tous les tissus morts et on devra peut-être mettre un fixateur externe.
C'est une blessure qui est assez courante ici. Parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'armes d'assaut, beaucoup d'AK-47 comme ça. Les chirurgiens ont vraiment l'habitude de faire ça. Et en plus, là, il s'agit d'une personne qui vient d'un endroit qui est assez loin de la capitale. Elle a dû être transférée par avion pour venir ici, dans le seul endroit où les gens pouvaient l'opérer. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de sauver la jambe, essayer de faire en sorte qu'elle puisse remarcher avec ses deux jambes un jour. Et si ça marche pas, ils vont être obligés de l'amputer. Donc là, l'opération vient de se terminer et malheureusement, les deux chirurgiens n'ont pas réussi à sauver la jambe. En fait, il se trouve que la balle était passée à travers une artère et donc avait sectionné l'artère. Et le pied n'était plus irrigué, donc ils ont dû sectionner pour éviter qu'il y ait une nécrose, enfin toute une gangrène. Pour une balle qui est passée dans sa jambe, elle se retrouve avec une jambe qui est réduite au niveau de la cuisse, quoi. Une balle, si ça tue pas, ça handicape, dans tous les cas.
Votre travail, Léo Grasset, se rapproche de plus en plus de celui du journalisme. Vous avez commencé un peu sur un média alternatif, au moment où vous commenciez en tout cas, sur YouTube, avec ces petites vidéos dans votre chambre de vulgarisation sur un ton très léger. 4 ans après, ou 5 ans après, on vous retrouve sur le terrain à traiter de choses beaucoup moins joyeuses. Il y a une évolution.
Il y a une évolution. Après, je ne sais pas si je vais rester à faire ça. C'est très imprédictible, en fait. Parce que tout simplement, ma chaîne, c'est aussi le produit des gens que je rencontre. Et je vais prendre un exemple. En 2015, j'ai sorti un documentaire que j'avais fait entre Bali et le Timor oriental. Et en fait, tout simplement, j'ai eu la chance de faire ça parce que j'ai un cousin qui m'a énormément influencé, inspiré. Et lui, il habitait au Timor oriental, donc il faisait du développement international là-bas.
Travailler avec les ONG.
Voilà, ouais. Et donc, en gros, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce pays où on va assez rarement. Et tout simplement, en discutant avec lui et tout ça, des thématiques, je me suis rendu compte qu'il y avait un super sujet sur la géographie écologique et tout ça. Et ça a été le cas pour tout le long de la chaîne, en fait. Là, j'ai rencontré Charles qui travaille pour Brut, qui est grand reporter. Bon, il se trouve que du coup, je fais des reportages un peu comme lui, en tout cas dans des zones difficiles. Qui sait, peut-être dans un an, je vais rencontrer une autre personne et du coup, mon contenu va aussi changer. Voilà, donc je pense que je suis un peu, comme tout le monde, une éponge et je me fais vachement inspirer des gens qui m'entourent, quoi.
Ouais, finalement, c'est les rencontres tout au long de vos voyages qui vous font évoluer. Il n'y a pas vraiment de plan ou de...
Si, je pense que j'ai ma propre expression. J'ai des choses que j'ai envie de transmettre. Là, par exemple, cette année, j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur le monde autre que juste des vues. Donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec Médecins Sans Frontières. On a prévu un voyage plus tard en Afghanistan. L'idée, c'est d'essayer de rendre le monde un peu mieux ou moins pire qu'avant qu'on y soit.
On n'est plus vraiment dans la vulgarisation, en tout cas plus seulement, il y a une sorte d'engagement.
Oui, il y a un peu d'engagement. Avant, il y avait de la poésie, maintenant, il y a de l'engagement. Peut-être qu'il y aura de nouveau de la poésie plus tard, je sais pas.
Merci Léo Grasset, votre travail et vos vidéos sont à découvrir sur votre chaîne Dirty Biology sur YouTube. Nous allons mettre un lien sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Restez avec nous dans un instant. Le sociologue de l'alimentation Éric Birloez va nous raconter le long chemin qu'un délicieux petit fruit rouge a dû faire pour arriver sur nos tables, la grande odyssée de la fraise à venir dans le Temps d'un Bivouac sur France Inter. Fogon calling, thought I spied a ship at the harbor gate. So the mooring when the anchor dropped with the iron. The darkness from you. Heard a whispering with the ballot cast on the judgment floor. Heard a wailing when the world was cold, it was cold no more. Where does a wish, does a yearning? Where does a turn, does a burning? Where
the darkness from you. Ship is leaving when the bell will toll, it'll toll for you. No denying when the log is lost, it can't be true. The darkness from you.
C'était Fogon Calling de Pierce Faccini sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et merci à Muriel Pérez qui signe la programmation musicale de cette émission.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel.
Vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation. Vous avez récemment publié Petite et grande histoire des légumes aux éditions Quae. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire d'un légume, mais d'un fruit que vous allez nous raconter. Un fruit dont la saison commence à peine.
La fraise. Mais si je voulais être scientifiquement exact, je devrais dire que la fraise n'est pas un fruit, mais une corbeille de fruits.
Ah, comment ça, une corbeille de fruits?
Oui, je m'explique. La partie rouge, charnue et juteuse dans laquelle vous croquez à belles dents n'est pas, comme c'est habituellement le cas, le pistil de la fleur qui se serait transformé après la fécondation de celle-ci par le pollen. En termes botaniques, cette partie charnue est le réceptacle floral qui a considérablement grossi. Les véritables fruits de la fraise, ce sont les nombreux et tout petits grains secs de couleur vert-brun parsemés à la surface de la fraise. Mmh. Les botanistes les appellent des akènes. La fraise est un polyakène.
Et ce fruit, pardon, cette corbeille de fruits qu'est la fraise, elle nous vient d'où?
Eh bien, cela dépend des espèces. En France, nous avons sous la main, depuis toujours, une fraise autochtone. C'est la petite fraise des bois. Mmh. En revanche, la grosse fraise du marché ou des magasins est d'une espèce différente. Elle est le fruit, c'est le cas de le dire, de croisements réalisés à partir de la fin du XVIIIe siècle, des mariages que les horticulteurs ont opérés à partir d'espèces de fraises qui, elles ont beaucoup voyagé, puisqu'elles viennent, pour certaines espèces, d'Amérique du Nord et pour d'autres, du Chili.
Alors restons pour l'instant sur la fraise des bois, la seule qui existait au Moyen-Âge. Elle était sûrement déjà très appréciée?
En réalité, pas par tout le monde. Jusqu'au XIVe siècle au moins, la fraise était plutôt dédaignée et même méprisée par les nobles.
Mais pourtant, c'est délicieux, ils n'aimaient pas ce goût-là.
Non, mais ça n'a rien à voir avec le goût en fait. Ah bon? C'est quelque chose qui a à voir avec la symbolique et avec la médecine. La fraise présentait à leurs yeux un très grave défaut. Elle se développe au ras de la terre. Or, dans la vision du monde de l'époque médiévale, la terre, c'est, parmi les quatre éléments de l'univers, le moins noble. Moins noble que le feu, que l'air, que l'eau. Conséquence, tous les végétaux qui poussent sous la terre ou à sa surface, les fraises, mais aussi les melons et l'ensemble des légumes, vont pâtir de cette image négative de la terre. Les nobles étant de rang social élevé, ils devaient se nourrir d'aliments eux-mêmes élevés, poussant en hauteur ou volant haut dans le ciel, comme le cygne ou les hérons. Cette perception symbolique était renforcée par les médecins médiévaux qui, pour des raisons de santé, déconseillaient les fraises et les melons à leurs riches patients.
Mais les choses vont ensuite changer.
Oui, surtout à partir du XVIe siècle. Les nobles français sont à cette époque totalement fascinés par l'Italie de la Renaissance. Mmh. Ils veulent imiter en tout les aristocrates de la péninsule. Or, ces derniers, les Italiens, mangent beaucoup de légumes et de fruits, dont des fraises. Et du coup, ces dernières deviennent très prisées par les élites françaises. Et pour répondre à cette nouvelle demande, on accroît fortement la culture des fraises des bois.
Puis c'est l'arrivée des premières fraises d'Amérique.
Oui, dans la première moitié du XVIe siècle, Jacques Cartier et d'autres explorateurs découvrent en Amérique du Nord une autre espèce de fraise. Les botanistes la nomment fraisier de Virgilie. Mais en France, leur culture restera confidentielle.
Et c'est là que la grosse fraise chilienne débarque en France ?
Oui, et là l'histoire est vraiment intéressante. En 1711, un officier du génie maritime, spécialiste des fortifications portuaires, est envoyé en mission d'espionnage au Chili. Sur place, il remarque des fraisiers cultivés par les Amérindiens, mais il remarque surtout que les fraises sont très grosses, même si elles sont de couleur blanchâtre, et ont, c'est vrai, un goût moins délicat que les petites fraises des bois. Cet ingénieur, explorateur, espion se nomme, ça s'invente pas, Amédée François Fraisier.
Alors ça s'écrit pas exactement pareil. Hein.
Voilà, F-R-E-Z-I-E-R. Il parvient à rapporter en France 5 plants qui donnent des fleurs, mais pas de fruits. Sans en avoir conscience, Fraisier n'a rapporté du Chili que des plants femelles qui, faute d'être pollinisés, demeurent stériles.
Du coup, on laisse tomber ces fraisiers exotiques du Chili?
Bah, heureusement que non. Parce que vers 1740, des cultivateurs de fraises bretons du village de Plougastel, près de Brest, constatent que ces fraisiers du Chili donnent des fruits si on les plante à proximité des fraisiers de Virgilie. Et c'est un jeune botaniste de 19 ans, Antoine-Nicolas Duchesne, qui en comprendra la raison. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est que les pieds mâles des fraisiers de Virginie ont pollinisé les fleurs femelles des fraisiers chiliens plantés à proximité. Et là, miracle, il y a eu création naturelle spontanée d'un hybride. Mais la très bonne surprise, surtout, c'est que cette nouvelle espèce réunit les qualités de ses deux parents. Les fruits sont gros comme les fraises chiliennes et rouges et délicieux comme les fraises de Virginie. Eh bien, ces plantes hybrides, ce sont les ancêtres de la plupart de nos fraisiers actuels. En 2017, sur 10 fraises produites dans le monde, la Chine en avait fourni 4 et les États-Unis 1,5. Pour sa part, la France avait assuré un tout petit 0,06% de la récolte mondiale.
Merci Éric Birloez. Je rappelle que vous êtes sociologue de l'alimentation et j'invite les auditeurs à découvrir deux de vos derniers ouvrages. Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale, publié aux éditions Ouest France. Et puis Petite et grande histoire des légumes aux éditions Quae. Nous allons mettre toutes les références sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. C'est aussi à cette adresse qu'il faut vous rendre pour podcaster cette émission et les précédents épisodes. Vous pouvez aussi utiliser l'appli Radio France qui vous donne accès à tous nos bivouacs et vous permet de remonter jusqu'à la première émission diffusée en 2013. Et bien sûr, pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, rendez-vous sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou cliquez sur le bouton Réagir de notre page sur le site de France Inter. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.